tonight along those lines.
Et ce soir, on va regarder en 2 Corinthiens 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Je suis vraiment intéressé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir le cœur élargi. Pensez au cœur de quelqu'un comme un ballon qui peut augmenter ou diminuer en capacité. Notre cœur peut se recroqueviller et on peut exclure des gens dans nos cœurs. Mais nos cœurs peuvent aussi être élargis et inclure des gens. Nos cœurs peuvent se recroqueviller et on peut exclure Dieu, ses promesses, sa vision, sa foi, la foi. Où nos cœurs peuvent s'élargir jusqu'au point où on peut croire et embrasser les promesses. Même la personne de Dieu lui-même qui est en nous. Vivre avec Dieu, ça signifie notre mesure n'est pas la mesure d'un homme en 1 Corinthiens 3, verset 2, mais c'est la mesure de Dieu. La mesure avec laquelle nous mesurons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous regardons par la fenêtre. Il y a une image. Daniel, on avait interdit à Daniel d'honorer Dieu et d'adorer Dieu. Il avait juste le droit d'adorer Nebuchadnezzar. Et alors il rentre à la maison et il prie devant la fenêtre ouverte. Et dans le Moyen-Orient, je peux imaginer ces édifices avec peut-être une fenêtre au deuxième étage. Il n'y a pas de vitre, mais c'est juste une fenêtre ouverte. Et il y a comme un petit balcon en face de la fenêtre. Et Daniel est là, en face de la fenêtre, et il prie. Et j'étais en train de me demander pourquoi. Et 2 pensées me sont venues. La première, c'est qu'il était en train de regarder par la fenêtre. Et il voyait la grande statue pendant qu'il priait. Il regardait par la fenêtre, par la foi. Et peut-être il voyait toute la ville. Et la Perse. Élevez vos yeux, a dit Jésus aux disciples, en Jean 14, verset 5. Regardez les champs. Souvent, et Pasteur Stevens l'a enseigné dans le Maine quand on prenait un car pour aller dans le New Hampshire. On allait vers les montagnes et au-dessus de l'Institut biblique et on priait. Et ensuite, quand on a déménagé à Lenox, on avait une salle de prière avec de grandes fenêtres. Et il y avait une chaîne de prière 24 heures sur 24. Et on priait sur ce tapis, dans cette grande pièce avec de grandes fenêtres. Et pendant ces années, on a envoyé des centaines de missionnaires dans le monde entier à partir de ce ministère. Et la prière de Daniel, c'était de lever les yeux, de regarder à Dieu et de regarder par la fenêtre parce que son cœur était élargi dans la persécution, par la foi. Quand les gens ne vous aiment pas, c'est une possibilité, c'est une opportunité pour votre cœur de s'élargir et de les inclure dans votre cœur, dans la prière. Quand un pays comme l'Iran ou l'Irak ou la Turquie ou l'Égypte ou l'Algérie est islamique, c'est une opportunité pour nos cœurs de s'élargir, d'être élargis par la foi et de lever nos yeux et de prier le Dieu des cieux. Daniel a fait cela alors qu'il était persécuté et il le faisait 3 fois par jour devant la fenêtre. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il n'avait pas peur des gens parce que son cœur était élargi. Quand notre cœur est élargi, alors les gens deviennent des objets de notre amour, des objets de notre intérêt, de notre investissement.
We fear people we don't know. But when we can imagine their trouble,
on a peur des gens quand on ne les connaît pas, mais quand on peut imaginer leurs difficultés, leurs troubles, leurs brisements, on peut se préoccuper d'eux, se soucier d'eux, les avoir dans nos cœurs, les porter dans nos cœurs, et nos cœurs sont élargis. L'autre sens de la fenêtre, c'est vers l'intérieur, regardant Daniel. Et les gens pouvaient voir par la fenêtre un homme intègre, un homme qui avait de la foi, qui n'avait pas peur, un homme qui faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse, quelles que soient les opinions du monde. On a besoin de voir des gens à travers la fenêtre, là-haut, en train de prier, comme des exemples. Et ça doit nous inspirer. On a besoin de voir des gens dont le cœur est élargi, dont le cœur est plus grand que la peur, l'insécurité et la culpabilité. Et c'est l'intérêt d'être ensemble. Et alors je dis ça, j'ai beaucoup de personnes qui me viennent à l'esprit. Regardez le verset 12. Vous n'y êtes point à l'étroit en nous. Vous n'êtes point à l'étroit en nous. Vous n'êtes pas serré en nous. On peut être à l'étroit chez les autres. On peut être quelque part forcé dans les vies des autres. On doit respecter la vie privée et nos vies personnelles. Mais quand votre vie est comme Daniel vers la fenêtre, alors votre témoignage me parle. Il stimule mon cœur. Et je me dis, mais quelle est cette foi? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est un homme de Dieu. Si on avait rencontré Jean le Baptiste, ça aurait stimulé notre cœur. On aurait été ému dans la foi. On aurait été enthousiaste à propos de la foi de Jean le Baptiste. Ou Marie, ou Timothée, ou Paul. J'ai lu quelque chose sur Internet à propos d'un homme dans le Cachemire en Inde. Il a 33 ans et il organisait des réunions de prière. Il était en feu pour Dieu et il a été tué. Il a été victime d'un meurtre. Et je pensais à cet homme et à cette famille qui ne le connaissaient pas, mais il avait ce même esprit que Daniel. Et les jeunes Hébreux, et l'apôtre Paul. Et ici aussi, on peut le voir et on peut le sentir. Avec, par exemple, chez quelqu'un qui a élevé trois enfants, qui a deux ou trois jobs, qui se lève tôt le matin pour aller travailler en train, qui lutte pour arriver à payer ses factures. Mais ils font tout ça en se reposant sur Dieu, en le croyant, et ils s'approchent de Dieu, et ils ont un esprit pur et tellement beau. Ils ont leur cœur élargi en Dieu. Je pense à Peggy Slocum. Elle est comme Daniel devant sa fenêtre. On peut la voir voyager en Sibérie avec un ministère et faisant toutes choses par l'Esprit de Christ, par la foi. Ô vous, Corinthiens, c'est comme s'il disait, enfin, Corinthiens, enfin, réveillez-vous en Dieu. Vous n'êtes point à l'étroit en nous, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Vous êtes comme à l'étroit dans vos propres émotions, dans vos propres sentiments. C'est de la pitié de soi, c'est une plaie pour les gens. La pitié de soi. C'est un grand danger de tomber dans la pitié de soi, se sentir désolé pour soi-même. Des gens qui ont des problèmes dans leurs âmes. Et chaque jour, Chaque jour, nous disons aux gens qu'on a été appelé à quelque chose d'autre. Regardez chapitre 3, verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes écrit dans nos cœurs. Vous êtes écrit dans nos cœurs. Écrit dans nos cœurs. Des gens. Écrit dans nos cœurs. Et ils sont lus et connus de tous les hommes. Quand Jacob s'est battu avec Dieu en Genèse 32, Dieu a dit à Jacob, laisse-moi aller. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas une belle image? Dieu dit à Jacob, laisse-moi aller. Le Dieu Tout-Puissant, il ne peut pas s'écarter de Jacob. Dieu, est-ce que tu n'es pas Tout-Puissant? Il peut faire pouf, et Jacob n'est plus que de l'histoire. Et il peut se libérer. Mais il dit non, Jacob, laisse-moi aller. Et Jacob lui dit, non, je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. On cherche Christ dans la Bible. On cherche Christ parce que c'est tellement rafraîchissant de découvrir quelque chose de plus que la chair et le sang. Et juste des gens, et juste qui on est en tant que personne. Et Jacob a lutté, et Jésus qui était là sous le nom de l'ange de l'Éternel, c'est aussi l'ange qui plus tard l'a dirigé, a sorti le peuple d'Égypte. C'était une théophanie de l'Ancien Testament. Une préincarnation de Dieu. Il a dit à Jacob, laisse-moi aller. Et Jacob lui a dit, non, pas tant que tu ne m'auras pas béni. Oui, Seigneur. Vraiment. On est sérieux, Seigneur. On ne te laissera pas aller. Non. On ne te laissera aller nulle part. Il faut que tu nous bénisses. Je te recherche et je te demande. Et je suis sérieux à propos de ça. Et il y a quelque chose en vous, à cause de cet esprit, que Dieu ne peut pas quitter, parce que c'est lui. Dieu doit s'obéir à lui-même. Et comme Christ est en vous, vous pouvez retenir Dieu. Et Dieu ne peut rien faire d'autre que de reconnaître et de respecter Christ en vous. Et quand vous dites, Seigneur, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni, peut-être que vous pouvez être blessé à la hanche et rester boiteux jusqu'à la fin de votre vie, mais ce n'est pas le genre de calcul que vous faites. Votre but, ce n'est pas de marcher bien droit, parce que ça n'est pas satisfaisant. Ce qui satisfait une âme solitaire, c'est la présence d'une personne qui se tient devant la fenêtre et qui dit « Je suis là ». Je suis Dieu, je suis le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui satisfait l'âme humaine. Et la plupart des troubles du monde sont liés au fait que le cœur des hommes est recroquevillé et qu'on est nous-mêmes recroquevillés à l'intérieur de notre cœur. On est trop petit à l'intérieur de nous. On n'a pas assez d'amour, de foi, d'obéissance, d'enthousiasme. Et on a besoin de Daniel au milieu de nous. Et c'est Daniel au milieu de nous, c'est Aya, c'est Pasteur Love, Pasteur Lange, Pasteur Taggart, et les gens à la radio, les mamans célibataires. Les mamans célibataires, c'est incroyable le ministère qu'elles ont. Toutes les mères célibataires, que Dieu vous bénisse. Qu'on puisse vous aider de la façon le plus possible. Chaque adolescent aussi qui puisse révéler Christ, comme ils l'ont fait dimanche dernier ici sur cette estrade. Et l'attitude de service, c'est incroyable. Parce qu'on est comme Jacob. On lutte avec Dieu. Et Dieu nous dit, ton nom est Israël. Et je ne crois pas que Dieu puisse donner un plus grand nom, Israël. Parce que tu as pouvoir sur Dieu et sur l'homme. Daniel, tu as du pouvoir devant Dieu et devant les hommes. Marie, elle avait du pouvoir devant Dieu et devant les hommes. Élisabeth. Et ça continue encore et encore. Et la liste en Romains 16, peut-être on regardera. Regardez d'abord avec moi 2 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ça signifie qu'il y a un message de Christ à travers votre joie. Il y a un message de Christ à travers vos souffrances. Il y a un message de Christ à travers votre sagesse. Il y a un message de Christ à travers votre patience, votre endurance. Il y a un message de Christ. Vous êtes une épître vivante, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. On avait un frère en Azerbaïdjan. Son nom, c'était Azer. Il rentrait à la maison. Et il y a eu quelque chose entre lui et un policier. Et il y avait un homme qui était un islamique fondamentaliste. Et Azer a commencé à témoigner. Et puis c'est devenu une dispute et c'est devenu dangereux. C'était limite violent. Et Azer a appelé un policier et le policier est arrivé et il l'a arrêté pour avoir évangélisé. Il l'a mis en prison, sans procès, sans rien du tout. Et il est resté 15 jours en prison. Et en fait, je suis allé dans ce pays juste au moment où Azer sortait de prison. Il avait une barbe. Et il nous a raconté ça. Et il nous a dit, c'était incroyable. Après quelques jours, au début, il se moquait de moi. Il m'accusait, etc. Et au bout d'un moment, Dieu a tourné la situation. Et je suis devenu leur conseiller. Les geôliers venaient me poser des questions à propos du mariage et de différentes choses. Et Azer a commencé à être un conseiller. Et il s'est régalé, en fait. Et bien qu'il ait souffert jusqu'à une certaine mesure, il s'est régalé pendant cette période-là. Et combien de nos frères et sœurs ont découvert la réalité de Christ à travers des circonstances difficiles? À quel point Paul les aimait parce qu'il se souvenait d'eux. On se souvient des gens qui ont été en Turquie, des gens à Silver Spring. Je pensais à Romains 16, regardez avec moi. Verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur. Je ne sais pas qui était Phébé, mais c'était une servante de l'Église qui est à Sancré. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Ça signifie qu'elle a aidé beaucoup de monde, elle a été une servante. Combien de gens comme elle on a au milieu de nous? Et Paul dit aux Romains, à l'église de Rome, je vous la recommande, elle est merveilleuse. Je crois qu'on a besoin de ce genre de clarification, peut-être en ce qui nous concerne. Parfois, une parole de confiance, de recommandation qui peut effacer la suspicion qu'il peut y avoir dans nos cœurs à un moment ou à l'autre dans notre vie. Et Paul dit, elle est extraordinaire, s'il vous plaît, recevez-la. Quoi que ce soit dont elle puisse avoir besoin, aidez-la. Verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Je pensais à Silver Spring au Maryland, dans le Maryland. Pasteur Shibley et sa famille et tout ce qu'ils font, verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Paul avait une appréciation particulière de ce couple. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Tout le monde à Silver Spring. Ils viennent ici de temps en temps et ils sont dans notre présence. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. On pense à Aya qui est partie aujourd'hui pour l'Irlande. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stakis, mon bien-aimé. Je pense à Pasteur Chris Moore quand je lis ça. Et ça continue dans tout le chapitre. Il y a un souvenir que Paul a parce qu'il a un cœur élargi, un cœur large. Et il pense, « Béni soit la mémoire du juste », Proverbe 10, verset 7. Comme Jésus quand il a rassemblé les douze pour le dernier repas. Les gens qui manifestent Christ, c'est notre réconfort, c'est notre vie. Et nous venons ici si souvent, nous nous réunissons et nous nous rappelons de la qualité de vie qui est dans le croyant. Et ça nous encourage dans notre foi jour après jour. Et on croit que Dieu peut nous vivifier. Dieu a promis d'écrire quelque chose dans notre cœur. Combien de pasteurs ici étaient, on s'est rencontrés il y a 30 ans à l'Institut biblique, on se rappelle même plus. C'était dans le Maine. Le livre de Ruth était en train de s'inscrire dans nos cœurs. Le livre d'Esther était en train de s'inscrire dans nos cœurs. Et Jésus a dit, je vous rappellerai les choses que je vous ai dites. Et peut-être même des expériences et des pas que vous avez faits sur une montagne ou dans une petite rue, dans un territoire secret, sur une terre sainte. Des moments de votre vie où vous avez lutté avec Dieu et où vous avez dit « Non, Dieu, je ne suis pas satisfait. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Et il vous bénit. Et ensuite, quand il vous laisse, votre vie est différente parce que Dieu vous a béni. Et vous avez de la puissance avec Dieu, comme Pierre quand il a prêché à la Pentecôte et que plusieurs milliers de personnes se sont converties. J'aime bien avoir une planche chez moi avec les photos des gens. Ça prend du temps, mais vous avez les gens petit à petit dans votre cœur. Apprenez à connaître les gens qui sont ici, parce que Christ est ici dans chacun de nous. Faites un pas de foi. Levez vos yeux. Ne regardez pas vos pieds. Quand vous regardez vos pieds en marchant, c'est tellement facile pour votre cœur de se recroqueviller. Mais par la foi, regardez dans vos cœurs à travers la fenêtre, par la fenêtre. Et dites, c'est ça ma vie, c'est ce que je fais. Et il y a ces deux choses qui se passent. Vous êtes édifié en connaissant Dieu et le monde peut voir votre vie. Il voit que vous êtes un croyant. Il voit que vous êtes le sel. Il voit que vous avez un message, que vous avez une vie particulière, que vous avez un témoignage, que quelque chose se produit dans votre vie et que c'est quelque chose qui vient de Dieu. En 2 Corinthiens 13, 7, Paul leur dit, vous cherchez une preuve du fait que Dieu parle en moi.
Christ to speak through Paul, which is mighty in you. That means it's mighty. It affects you. Your heart burns.
Je suis désolé, je pense que le verset n'est pas bon.
If this is amongst us, and it's beautiful, you can see it. It's our fellowship, it's body life.
C'est notre communion, c'est la vie du corps et c'est précieux. Dieu est avec nous et on ne doit pas se fatiguer mais être patient. Et Christ ne nous manquera jamais, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous décevra jamais. On sera comme tous ces gens dans la Bible, comme dans le livre de Ruth. Comme Paul a dit à Timothée, je me rappelle de tes larmes, Timothée. Je me rappelle de tes larmes. Je me rappelle cet esprit que tu avais, cet esprit de brisement et de tendresse, devant Dieu. Et j'ai vu Christ dans ses larmes. J'ai vu Christ dans ses larmes et ça m'a encouragé puissamment et ça a élargi mon cœur. Et j'ai compris que je pourrais aller et que Timothée continuerait à proclamer l'Évangile. Et on va juste finir avec ça. On va aller à la conférence Eurocon. Et on peut tous faire ça dans nos cœurs. Se soucier les uns des autres. Quand on se lève le matin et quelqu'un vous vient à l'esprit, peut-être que c'est Dieu qui vous appelle à l'édifier, à l'aimer, parce qu'il en a besoin. On a besoin de ça. Quand on doit se réunir ici à Baltimore en juin pour la convention, on peut juste marcher par la prière alors que cet événement approche. Et on peut dire, Seigneur, c'est merveilleux qu'on soit liés les uns avec les autres. C'est merveilleux qu'on ait nos cœurs élargis. On a tellement de gens dans nos cœurs. Et même le ciel est dans nos cœurs. Mais l'enfer aussi est dans nos cœurs. Il est là aussi dans nos cœurs. Et on pense que les gens sont perdus et ça nous choque. C'est une réalité. Et c'est aussi dans nos cœurs et c'est une partie de notre motivation. Le tribunal de Christ est aussi dans nos cœurs. Et la doctrine pour nous, ce n'est pas de citer 150 versets, mais c'est 150 versets auxquels on a mélangé le Saint-Esprit. Et ça construit la doctrine dans notre âme, ça nous apprend à penser avec Dieu et ça élargit notre cœur. Si on continue, vous et moi, dans ce chemin en Dieu, notre récompense sera grande dans les cieux. Nos cœurs seront élargis et ça ne sera plus nous, mais ça sera Dieu, son amour, sa foi, son pardon, sa grâce, sa vision. On lèvera les yeux et on dira, peu importe ce qu'il y a en bas, peu importe la fausse sceptique qu'il peut y avoir en bas, moi je regarde en haut. On est des gens de l'esprit. Et comme des gens de l'esprit, des gens de vision, nos cœurs sont élargis pour inclure même les Corinthiens. Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur est élargi. On vous parle. Ne soyez pas tout rétréci, tout recroquevillé dans votre cœur, mais soyez élargi en Dieu. Comment un père pourrait-il ne pas aimer son fils? Et pourtant, ça pourrait arriver. Ésaïe a dit, comment une femme peut-elle abandonner son enfant nouveau-né? Mais ça peut aussi arriver. Mais Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Ça montre à quel point nos cœurs peuvent être petits et froids, mais ils peuvent devenir de plus en plus grands et inclure beaucoup de ce que Dieu a en réserve pour nous. Priez avec moi. Seigneur Jésus, on a ressenti les deux choses. l'élargissement, peut-être un pays entier, la vision de l'évangélisation du monde entier. Et on ne veut pas rester recroquevillés dans nos petits cœurs tout rabougris. Seigneur, si on pouvait t'obéir et te suivre par la foi, et que notre homme intérieur puisse s'élargir de façon élastique, qu'on puisse expérimenter Christ dans notre vie, inclure les perdus dans nos cœurs, les gens qu'on ne connaît pas, les membres de nos familles, et vraiment se soucier d'eux. Et même si on échoue, ça nous arrive à tous. Mais ce soir, on te remercie pour chaque souvenir de personnes. Même notre passé est béni. Pas parce que nous vivons dans notre passé, mais parce que nous voyons Dieu dans notre passé. Et c'est pourquoi on peut aller à la fenêtre et croire Dieu. Et on peut être délivré de la fosse des lions comme Daniel l'a été. Quel est votre ennemi ce soir? Quel est votre problème? Confessez-le. Parlez à Dieu. Vos échecs, il va vous aider. Amenez-le au-delà de vous. Il pourra vous délivrer. Il peut vous satisfaire. Et dans une nuit froide de février, vous pouvez rentrer chez vous tout joyeux avec un cœur élargi. Les gens prennent des décisions en fonction du temps, du climat, des pays, des langues, de leur convenance personnelle, de leurs difficultés. Mais on ne veut pas faire ça, Seigneur. On veut un cœur élargi pour vivre ce que tu veux que nous vivions, là où tu veux que nous soyons. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est jamais né de nouveau, dites dans votre cœur, « Jésus, je t'accepte dans mon cœur ce soir. » Faites cette prière. « Seigneur Jésus, je t'accepte. » Sur Internet aussi. « Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur ce soir. » Levez votre main si vous faites cette prière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.